Éric Bataillon.
Bonjour. La vie de Maryam Bawardi est incroyable. Cette Palestinienne du 19e siècle n'aurait pas dû naître, a failli mourir adolescente, avant de décéder accidentellement en pleine jeunesse, lors de la construction du couvent de Bethléem. Canonisée ce dimanche à Rome, Maryam représente un symbole fort de la présence ancestrale du christianisme au Moyen-Orient. 200 participants âgés de 18 à 30 ans, pour la majorité tunisiens, mais aussi français, marocains, algériens ou palestiniens, ont participé à la 5e édition du Forum méditerranéen de la jeunesse à Tunis au début du mois. Antoine Lalanne-Desmet y était pour RFI et Orient Hebdo. À suivre également la revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
On la surnommait affectueusement la petite arabe. Maryam Bawardi était née au mi-temps du 19e siècle en Galilée et n'aura vécu que 33 ans à peine, l'âge du Christ. Entre-temps, cette jeune palestinienne catholique de rite gréco-melkite aura beaucoup voyagé et beaucoup œuvré pour la présence chrétienne au Moyen-Orient, ce qui lui vaudra d'être canonisée demain dimanche au Vatican. Bonjour Joachim Boufflet.
Bonjour.
Historien, vous êtes également consultant au service de postulateur auprès de la Congrégation pour les causes des saints à Rome. Vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés aux mentalités religieuses et au mysticisme, ainsi que diverses biographies spirituelles. Vous mettez d'ailleurs la dernière main à une biographie de Maryam Bawardi aux éditions Le Passeur. Joachim Boufflet, si le destin de cette jeune femme est étonnant, sa petite enfance ne l'est pas moins.
Oui, tout commence en fait avant même, je dirais, sa naissance, puisque ses parents ont eu 12 garçons qui sont morts très peu de temps après la naissance. Et la maman a demandé à son mari d'aller faire un pèlerinage à Bethléem pour demander la grâce d'un enfant. Et ils sont allés en pèlerinage et Maryam est née après cela. Ensuite, à 12 ans, elle est victime d'une tentative d'assassinat dont elle réchappe de façon, peut-on dire, miraculeuse.
À ce moment-là, elle habite à Alexandrie,
c'est ça ? Elle habite à Alexandrie en Égypte parce que sa famille adoptive s'est déplacée à Alexandrie. Et à partir de là, elle mène une vie errante. Elle essaie constamment de revenir dans son pays natal. Elle en est écartée par des orages qui éclatent à chaque traversée. Donc elle est jetée tantôt dans le port de Jaffa, tantôt dans le port de Beyrouth. Et pour survivre, elle se fait domestique.
Alors donc, domestique à Beyrouth, oui. Ensuite, elle a l'occasion de venir en France, racontez-nous oui. Comment
alors elle rencontre en France, à Beyrouth, une famille donc libanaise qui a des parents en France, à Marseille. À Marseille, il y a une colonie d'orientaux, on les appelait les Égyptiens d'ailleurs, qui étaient les rescapés des campagnes napoléoniennes pendant lesquelles ils s'étaient alliés à Napoléon, donc ils étaient pourchassés par leurs concitoyens. Et elle est venue à Marseille, donc dans cette famille Najjar. Et elle a servi comme cuisinière. Et après, elle est entrée donc chez les sœurs de Saint-Joseph au bout de 2 ans.
Qu'est-ce qui l'a conduit justement à rentrer au couvent ?
Mais des choses très particulières. Elle n'a jamais eu l'occasion de fréquenter des religieuses. Elle est beaucoup plus héritière d'une tradition érémitique du Moyen-Orient. On s'exerçait à la vie parfaite pour se retirer ensuite auprès de Dieu.
Donc, elle est à Pau, elle est au couvent, et là, elle prend...
Elle est d'abord à Marseille. Elle est chez les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, qui sont à Marseille, à la Caplette. Elle y reste 2 ans, et là, il y a des phénomènes qui troublent la communauté, notamment la stigmatisation, et la communauté, suivant les mentalités de l'époque, évidemment, dit une contemplative dans un ordre actif, ça ne va pas, on ne peut pas allier contemplation et action, etc. Donc, on vote contre son admission au noviciat. Mais, par chance, une des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition va passer au Carmel de Pau et elle prend Maryam avec elle. Et Maryam est comme ça accueillie au Carmel de Pau, sans que les supérieurs ne soupçonnent le moins du monde d'ailleurs qu'elle est sujette à des grâces extraordinaires.
Alors elle est à Pau, mais ensuite sa vie évolue et elle va fonder, ou en tout cas participer à la fondation de plusieurs couvents.
Oui, elle est d'abord invitée par ses voix et par les circonstances à aller fonder en Inde, à Mangalore, où ça se passe très mal en fait. Elle est humiliée, on la traite de fausse mystique. Elle rentre de nouveau à Pau, et ensuite elle repart en Terre Sainte, donc, et elle va fonder le Carmel de Bethléem. Et c'est là qu'elle va mourir, à l'âge de 33 ans, enfin dans sa 33e année.
Alors toute cette vie s'est passée il y a un siècle et demi environ, oui, entre 1846 et 1878. Oui. Mais aujourd'hui, cette canonisation, que représente-t-elle pour les chrétiens d'Orient ?
D'abord, je pense qu'elle les ramène à leur identité profonde. Ils sont les fils de leur terre, ça c'est fondamental. Et ils sont héritiers d'une tradition qui est absolument inestimable et irremplaçable.
C'est-à-dire que lorsque un certain nombre de groupes armés qui sont parfois islamistes, oui, que l'on nomme djihadistes en général, comme par exemple l'organisation, oui, islamique, dit les chrétiens n'ont rien à faire sur cette terre, ils ont tort.
Mais les chrétiens sont avant eux sur cette terre. Il y a quand même toute cette tradition du monachisme égyptien, syrien, etc., qui date du 3e, 4e siècle déjà. Les chrétiens sont là depuis très longtemps.
Est-ce que d'une certaine façon, les chrétiens d'Orient ne sont pas finalement les porteurs de la chrétienté originelle ?
Mais absolument, puisque nous avons encore dans ces chrétientés des liturgies dans lesquelles on parle araméen, qui est la langue que Jésus parlait quand il était là. Ils sont vraiment, je dirais, à l'origine, ils sont les passeurs de la grande tradition qui remonte à l'origine du christianisme.
Et ils doivent rester
il faut absolument qu'ils y restent, mais absolument, il faut qu'ils restent.
Est-ce que la décision de canoniser Mariam et aussi une autre sœur palestinienne,
sœur Marie-Alphonsine, oui,
absolument,
oui,
qui elle venait de Jérusalem, est-ce que c'est une décision à caractère politique que prend là le pape François?
Non, je ne crois pas. On peut penser que c'est un encouragement aux chrétiens d'Orient, certainement. Une canonisation politique au sens strict, je n'aime pas le terme d'abord. Et puis ensuite, je ne crois pas que l'Église soit soumise à des impératifs politiques. Elle est canonisée simplement parce que il y a des miracles qui ont été accomplis, qui servent pour la cause de canonisation. Il ne remonte pas à très longtemps, et c'est tout.
Il faut dire que la canonisation vient après un certain nombre d'étapes, notamment,
oui,
la béatification, qui est déjà plus ancienne.
Oui, depuis 1983, je pense, oui.
Est-ce que la communauté chrétienne, des chrétiens d'Orient, peut se recentrer, se ressourcer à travers ce genre de canonisation particulière d'une
bien
palestinienne?
Sûr, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on les ramène justement à leur origine et à leur devoir d'origine. Les chrétiens d'Orient sont, je disais tout à l'heure, des passeurs, ils sont les héritiers, et ils ont quelque chose à nous communiquer, mais pas en venant se réfugier chez nous, ça ne sert à rien, mais en restant sur cette terre, qui est quand même le cadre dans lequel a vécu Jésus.
Merci Joachim Boufflet, historien, à l'occasion de la canonisation de Mariam Bouadri, religieuse palestinienne, dont vous préparez une biographie à paraître aux éditions Le Passeur.
Merci.
La cinquième édition du Forum méditerranéen de la jeunesse s'est tenue en Tunisie du 1er au 3 mai. Cela se passait dans les locaux flambant neufs de l'Institut français de Tunis et vous y étiez pour RFI, Antoine Lalande-Desmé.
Oui Eric, avec près de 200 participants âgés de 18 à 30 ans, pour la majorité tunisiens, mais aussi français, marocains, algériens ou palestiniens, et tous encadrés par une cinquantaine d'intervenants chargés d'animer un village associatif et surtout 14 ateliers portant par exemple sur l'insertion économique, la gouvernance ou l'économie sociale et solidaire.
Et tous ces jeunes issus de la société civile, que venaient-ils chercher dans ce forum ?
Eh bien, en fait, à l'issue de ces trois jours, chacun des 14 ateliers présente un projet destiné à la société civile tunisienne. Les 6 meilleurs devraient être financés par l'Institut français de Tunisie d'ici l'automne. L'année dernière, par exemple, par cette aide, le projet WeCode, Wenti Wakesh, a vu le jour et a permis à des entrepreneurs tunisiens au chômage de se lancer sur le marché du travail et de lancer leur propre start-up. Mais ce forum, c'est aussi l'occasion pour beaucoup de créer du réseau. Prenons l'exemple de Souhel, ce Tunisien invité par Safir Lab, un programme d'accompagnement d'initiatives de jeunes dans la société civile du monde arabe, a rencontré deux Français et il a repensé avec eux son projet autour du sport comme vecteur de citoyenneté.
Le rôle de la société civile aujourd'hui, c'est de notamment faire ce que l'État ne fait pas. Et durant le forum jeunesse, j'ai fait la connaissance de deux associations françaises. Je leur ai proposé le truc de l'échange et tout. Nous, on pourrait envoyer quelques jeunes diplômés faire des expériences dans des associations ou bien des structures en France. Et en même temps, on pourra accueillir des jeunes français. On va candidater pour l'appel d'offres de l'Institut français espérant que ça marche. Sinon, il y a d'autres bailleurs de fonds.
Antoine, un forum de la jeunesse en Tunisie, ce n'est pas anodin. La jeunesse a eu un rôle important, on s'en souvient, lors de la révolte du printemps 2011. 4 ans après, l'enthousiasme est-il toujours là? On dit les jeunes déçus.
Dans un sens, ça n'est pas faux. À ce forum, impulsé par des initiatives françaises, mais co-organisé avec des associations tunisiennes, on pouvait percevoir une certaine séparation entre le monde politique et la société civile. Par exemple, il y avait d'un côté le ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles et la société civile, Kamel Gendoubi, qui assurait son soutien à la jeunesse.
On est en train de travailler pour planifier pour 2016-2020 un plan sous le titre « Un nouveau modèle de développement » dont l'objectif principal, c'est les jeunes. C'est-à-dire en termes d'emploi, bien sûr, en termes d'intégration économique, en partant du fait que l'implication des jeunes, elle est toujours déterminante. Et elle l'a été notamment quand elle a réglé le sort de la dictature. Donc l'implication des jeunes est un élément aussi déterminant dans tout projet qu'on veut, un nouveau projet de développement ou un nouveau projet démocratique.
Et de l'autre, des jeunes adultes diplômés de moins de 30 ans, impatients de contribuer à leur pays, comme c'est le cas de Nour Kabi, membre de Jamaïti, une plateforme qui fédère et répertorie les initiatives associatives en Tunisie.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes en Tunisie qui sont super compétents. Mais nos politiciens font en sorte de les exclure par résistance au changement, tout simplement, parce qu'ils sont habitués à travailler d'une manière conventionnelle. Et en plus, parallèlement, la jeunesse, à l'époque de Ben Ali, elle a été marginalisée. Et donc, elle n'a pas pu acquérir l'expertise nécessaire pour intégrer des postes clés au niveau du gouvernement. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, tous les jeunes s'orientent vers la société civile. C'est un lieu où ils peuvent justement développer leurs compétences et acquérir des connaissances qui vont leur permettre d'avoir, par la suite, accès à ces postes de décision.
Cependant, à l'image de Nour Kabi, l'enthousiasme est encore présent. Et des initiatives de la société civile, souvent financées par des bailleurs de fonds étrangers, émergent. Tout l'enjeu pour l'État tunisien et son président de 89 ans, élu en décembre dernier, est donc de ne pas perdre le contact avec ces jeunes qui représentent près de 50% de la population tunisienne.
Merci Antoine Lalande-Desmé. Reportage réalisé à Tunis lors du Forum de la Jeunesse.
Merci.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, à la une de nombreux journaux arabes, la commémoration de la Nakba ou la catastrophe marquant pour les Palestiniens la création de l'État d'Israël.
Oui, une 67e commémoration et le sentiment que la Nakba ne fait que s'approfondir dans plusieurs journaux. Ils citent notamment le cas des décisions de justice israélienne qui approuvent la destruction du village de Sosia en Galilée, en Cisjordanie, pour étendre une colonie de peuplement juive et le village de Oum Hayran dans le Negev pour la construction d'une autre colonie. Les journaux indiquent que les habitants de Sosia, situés pourtant en territoire palestinien, conformément aux accords d'Oslo, préfèrent la mort au départ. Des éditorialistes soulignent aussi que la question palestinienne n'est plus la cause principale défendue par les Arabes qui sont trop occupés à combattre l'État islamique sous toutes ses formes. Un État que certains analystes n'hésitent pas à qualifier de création israélo-américaine.
Michel Paul, pas de Nakba dans vos journaux, mais c'est fait. Désormais, le gouvernement israélien, issu des élections du 17 mars, prête serment.
Près de 2 mois pour constituer le gouvernement le plus à droite qu'ait connu Israël. Et c'est bien sûr le sujet qui fait la une. Le peuple nous a choisi, une citation de Benjamin Netanyahou qui est retenue par Yediot Aharonot, avec la réaction du chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, pour qui ce n'est pas un gouvernement, mais tout simplement un cirque. C'est donc le 34e gouvernement israélien qui voit le jour. Une cérémonie à la Knesset, le Parlement israélien qui est qualifié par la presse de tumultueuse, embarrassante, il n'y avait pas vraiment une ambiance de fête. Netanyahou a eu du mal à partager les portefeuilles ministériels, il a dû changer la loi les limitant en 18, le nouveau gouvernement en compte 20, mais plusieurs postes n'ont pas encore été pourvus, comme celui de chef de la diplomatie. Les journaux soulignent que le mécontentement règne parmi plusieurs figures de proue du Likoud, le parti du Premier ministre. Conclusion d'un éditorialiste, la vie ne va pas être facile pour Benjamin Netanyahou, qui proclame cependant que la porte reste ouverte pour élargir la coalition.
Et ce gouvernement, Michel, soulève beaucoup de critiques dans les journaux.
Des commentaires très durs dans la plupart des journaux. « Mourir de honte », écrit un éditorialiste. « Une véritable farce », souligne un chroniqueur. « La République des nains », proclame un commentateur dans Marive. Dans le même journal, une éditorialiste de droite se frotte les mains en affirmant « Nous avons bien voté ». Haaretz, lui, résume la situation avec un titre acerbe, un gouvernement de droite qui démarre du pied gauche. Même le quotidien Israël Hayom, proche du Likoud, le souligne, des moments difficiles dans la formation du gouvernement, mais l'éditorial du quotidien s'en prend au chef de l'opposition qui, selon l'auteur de l'article, a semble-t-il oublié qu'il a perdu les élections.
Et un autre point à soulever, Michel, il y a peu de femmes dans ce gouvernement.
3 femmes seulement sur 20 membres du gouvernement, mais Eric, la presse se félicite de la nomination pour la première fois d'une ministre de l'égalité des genres, et ses 2 collègues font déjà beaucoup parler d'elle. L'une, Ayelet Shaked, ministre de la Justice, est illustrée par ses déclarations contre les pouvoirs de la Cour suprême et aussi des propos anti-palestiniens. L'autre, Miri Regev, ministre de la Culture et des Sports, est connue pour n'avoir pas sa langue dans la poche. Générale de réserve, elle a notamment dirigé dans le passé les services de la censure militaire.
Alexandre, la presse arabe a un regard plus large qu'en Israël et s'intéresse à la réunion de Camp David entre le président américain et des délégations des 6 pays arabes du Golfe.
Oui, et les journaux notent l'absence des principaux chefs d'État du Golfe à ce qui devait être le sommet de Camp David et qui n'a finalement été que réunion. Une réunion où l'on a parlé de coopération stratégique et de lutte contre le terrorisme et où les États-Unis ont essayé de rassurer les pays du Golfe quant à leur engagement pour garantir leur sécurité après un accord avec l'Iran. Pour la plupart des éditorialistes, les Américains ont échoué dans leur tentative. Les journaux ont multiplié les articles sur les menaces iraniennes et le désengagement américain sous Barack Obama. Obama qui s'est même trempé en citant le nom du fondateur de l'Arabie Saoudite, le roi Abdelaziz ibn Abdelrahman ibn Faisal al-Saoud.
Massacre à Tadmor, le nom arabe de Palmyre en Syrie. Alexandre, c'est le titre que donnent les journaux arabes à la chute de la ville, tombée aux mains du groupe État islamique.
Oui, pour les journaux, le massacre est double. Il y a d'abord l'exécution de dizaines de civils aux portes de Tadmor, entre décapitation, pendaison et fusillade. La signature incontournable de l'État islamique, ou Daesh, dont la domination est basée sur la terreur, estiment les journaux. L'autre massacre est celui des vestiges historiques de la ville, qui risquent de subir le même sort que les sites archéologiques et les musées irakiens tombés entre les mains de Daesh en Irak. La presse égyptienne rappelle à cet égard les menaces qu'ont fait peser les islamistes sur le Sphinx et les pyramides. Les journaux signalent enfin l'appel lancé Urbi et Orbi par le calife Baghdadi, demandant aux musulmans du monde entier de venir le rejoindre à Daeshland.
Et puis Alexandre, le journal Al-Arabi dresse le portrait de Mariam Ben Saleh, la patronne des patrons du Maroc.
Oui, le journal la surnomme la Dame de Fer et souligne que nul n'a osé entrer en compétition avec elle pour son second mandat de 3 ans à la tête du patronat marocain. Ben Saleh règne sur l'empire familial Olmarcom, qui possède des sociétés industrielles, agricoles, touristiques et dans les domaines des assurances et du bâtiment. Son principal exploit, selon le journal, est d'avoir défendu les intérêts des milieux d'affaires face au gouvernement Ben Kiran, qui, selon le journal, s'est rangé du côté du libéralisme économique.
Autre sujet traité par la presse israélienne, Michel Paul, en dehors du gouvernement, le regain de tension au niveau sécuritaire.
Oui, la presse consacre plusieurs articles à l'attentat à la voiture Bélier qui a fait jeudi des blessés au carrefour de Gouch Etzion en Cisjordanie. Eric, c'est là qu'il y a un peu moins d'un an ont été enlevés 3 adolescents israéliens retrouvés morts un mois plus tard. Et c'est cet incident qui avait déclenché en fin de compte l'opération bordure de protection à Gaza.
Et puis votre photo du jour, quelle est-elle, Michel ?
Eh bien, c'est bien sûr la photo de famille du nouveau gouvernement israélien publiée par tous les journaux. Et certains font remarquer le sourire crispé du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain, tout de suite, un nouveau journal.